Donc, il doit y avoir à peu près une centaine de slides, de diapositives. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop. Donc, il y a certaines, je vais les passer. Mais c'est mon côté d'interprétation. Donc, on m'a dit il faut parler de la nouvelle nature du commerce international. Très bien. Prof, hein, on me dit, je fais ce qu'on me dit. Hein. Je rajoute quand même un point d'interrogation parce que... voilà. Qu'est-ce qui est vraiment nouveau, je ne sais pas. Et c'est une vraie question parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à voir maintenant, et c'est ce que je vais essayer de démontrer avec mes petits moyens, c'est que ce qui est nouveau, c'est que peut-être qu'on revient en arrière. D'accord. Et donc, on va essayer de voir ça. Donc, ce qui est nouveau est finalement un retour vers l'ancien, ce qui est toujours une façon de dire quelque chose. Voilà ma présentation. Quelques faits, on va se donner quelques outils de base, quelques connaissances. Sur la modélisation, il y a longtemps, il y a moins longtemps, et puis plus récemment. Un point sur les avantages comparatifs, si vous avez étudié ça en cours, c'est très bien. Et sur ce moteur-là du commerce international, et donc avoir un petit peu de réflexion théorique sur quel est le moteur, pourquoi est-ce que les pays échangent, et finalement ça va être le cœur de ma présentation. Et puis un point aujourd'hui sur les problématiques qui restent dans la mondialisation d'aujourd'hui et les enjeux politiques qui découlent de la situation. Alors allons-y. Voilà une citation de quelqu'un qui nous décrit donc un épisode extraordinaire dans le progrès économique de l'homme, où on peut, de son lit, commander tout un tas de produits et attendre de se les voir livrer à la porte. C'est quelqu'un qui s'appelle John Keynes, qui est mort depuis un certain temps et qui parle du début du XXe siècle. Donc, il n'y avait pas Internet, hein, donc il n'était pas... Donc, John Keynes passait beaucoup de temps dans son lit le matin, donc on imagine bien... c'est un joyeux fêtard. Donc, on l'imagine bien, effectivement, boire son thé matinal vers 13h, en attendant le facteur. Donc il n'avait pas Internet, mais effectivement, on pouvait avoir déjà un monde très très largement ouvert. Et quand on regarde le taux d'ouverture, hein, donc, c'est le ratio de du commerce de biens sur la production de biens dans le monde, de 1900 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, dans les années 70... Pareil. Donc en fait, on a un trou là qui est important, qui est la crise des années 30, qui a été évoquée, avec un retour du protectionnisme très fort, avec donc le trou de la Première Guerre mondiale, qui met un coup au commerce. La guerre, c'est pas bon pour le commerce. Et puis la crise des années 30, qui remet un autre coup, puisqu'on on augmente les protections. Et puis après, le commerce reprend tranquillement, il retrouve son niveau de 1914 que dans les années 70. Bon, aujourd'hui, le schéma est quand même très différent. D'accord ? Donc, il y a une première vague de mondialisation avant la Première Guerre mondiale, avec une très forte ouverture, sans Internet, sans avion, sans super porte-conteneurs, etc., donc avec des moyens limités. Aujourd'hui, on est passé à une dimension qui est effectivement tout autre. Alors, qu'est-ce qui a changé entre ces deux vagues de mondialisation ? Avant et aujourd'hui, donc avant 1914 et aujourd'hui, il s'est passé quand même un certain nombre de choses, donc une ampleur plus grande, on l'a vu. Et puis on échange surtout plus de biens manufacturiers. Ici, donc là on est dans les 1967 jusqu'en 2012, et c'est la part dans le commerce total, le commerce de biens total, des produits manufacturiers, c'est en bleu, ça monte, et des produits primaires, c'est en rouge, ça diminue. Et donc, effectivement, on a les deux courbes se croisent. Forcément, c'est des parts. Donc, quand l'une augmente, l'autre diminue. Hein, c'est une façon assez biaisée de faire des graphiques. Mais donc, effectivement, on a une tendance à commercer beaucoup plus de biens manufacturiers. D'une part, c'est normal. Le monde se développe et donc produit plus de biens manufacturiers. Les gens sont plus riches. Et donc, quand on est riche, eh ben, on ne mange pas beaucoup plus de carottes. Mais par contre, on consomme beaucoup plus de biens sophistiqué. Donc ça, c'est un peu normal, mais ça dénote aussi le fait que Plus de pays vont être à même de fabriquer des biens manufacturiers et de les échanger, ce qui change un petit peu la nature des relations internationales. Parce qu'effectivement, dans le même temps, on a plus de pays qui commercent. Et donc, si on regarde la part dans le commerce des pays de l'OCDE, en français, on voit que c'était 90% du commerce en 67. Et aujourd'hui, c'est tombé à 60%, ce qui est quand même énorme. Mais on a une croissance très forte des pays en développement, des developing countries. Excusez-moi, il y a un petit peu d'anglais mélangé à tout ça, au français, mais enfin, vous arriverez à vous en sortir. Donc effectivement, beaucoup plus de pays émergents en développement qui participent au commerce mondial. Et si on regarde la part des pays dans le commerce mondial, donc ça, c'est les États-Unis. Ça faisait, dans 67, ils faisaient plus de 15% du commerce. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils en font plus que 7%. Donc c'est une baisse très importante. Ça, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne qui est un super exportateur, mais surtout dans les années 2000, effectivement a perdu beaucoup de son poids dans le commerce mondial. Le Japon, qui a connu sa grande apogée industrielle au début des années 80, eh bien, depuis, voit sa part dans le commerce mondial décliner. L'Italie... En fait, ça penche, hein, mais comme ça part pas trop, ça va. Ça, c'est la Grande-Bretagne. La France est là. Donc, tout ça, les pays européens, mis à part l'Allemagne, qui est un pays extraordinaire du point de vue du commerce, tous ces pays européens se ressemblent. Et puis là, on a les BRIC, hein, donc Brésil, Russie, Inde et Chine, où, effectivement, depuis les années 90, on a un boom extraordinaire de ces pays-là dans le commerce mondial. Alors en fait, bon, on dit les briques, bon, en fait c'est la Chine, hein, ça c'est la Chine, donc tout ce qui fait la variance des briques, c'est effectivement uniquement la Chine. Bon, ce qui change un petit peu la donne, hein, c'est que effectivement ces pays-là, donc ces pays en développement ou ces pays émergents, commercent de plus en plus et commercent des biens manufacturiers. Ce qui change profondément les relations internationales. Dans la première vague de mondialisation, dans les années, au début du XXe siècle, pas de problème, hein, on fabriquait des biens manufacturiers en Europe, du textile, des machines, etc. On les exportait, puis on importait du café, du cacao, des choses comme ça. Ok, moi, si j'exporte des machines-outils et que j'importe du cacao, les importations de cacao font pas de mal à mon industrie. Ça, c'est assez neutre. Hein. On ne fabrique pas de cacao à Saint-Etienne, donc il n'y a pas de concurrence comptable. À partir du moment où on commence à commercer des biens manufacturés contre des biens manufacturiers, on commence à avoir une confrontation plus directe en termes de compétitivité entre les pays. Donc effectivement, ça a créé un peu plus de tensions, notamment, ça crée des stimuli de politique économique en termes de compétitivité. Et donc effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Là, on est dans les années 70. Le bleu, c'est la part dans le commerce, dans les exportations de ces pays-là, des minerais, le rouge, c'est l'énergie, le jaune, c'est l'agroalimentaire, et puis le bleu foncé, c'est le manufacturier, et le bleu clair, c'est les minerais. Donc, les États-Unis, la France, la zone euro étaient des super exportateurs de biens manufacturiers, et puis Brésil, Chine, les pays en développement, donc les PMA, c'est les pays les plus pauvres du monde. L'Afrique subsaharienne, ça a été surtout des exportateurs de produits agricoles. Dans les années 2010, eh bien, tout le monde est devenu bleu, sauf l'Afrique subsaharienne et les PMA, qui n'arrivent à exporter grosso modo que du pétrole et quelques produits miniers. Mais donc, effectivement, le fait de voir tout ce bleu ici, là et là, signale bien qu'on a une concurrence maintenant directe entre les anciens pays riches et les nouveaux pays riches. Et donc, des relations internationales qui sont un petit peu plus tendues et effectivement, de la perte d'hégémonie, pour reprendre le terme qui a été dit. Les tendances récentes du commerce, c'est de commercer donc avec plus de pays, de commercer plus de biens manufacturiers et de commercer aussi plus de services. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, c'est un petit peu subtil. Je vous passe les difficultés statistiques pour mesurer le commerce de services. En fait, on n'en sait pas trop grand-chose, hein, du commerce de services. C'est très compliqué. Le commerce de biens, on sait très très bien. C'est extrêmement bien documenté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des douanes et les douaniers, ils mettent des tampons sur des documents. Et puis les documents, ça fait automatiquement des bases de données. Donc on collecte très bien les informations sur le commerce de biens. Le commerce de services, c'est plus délicat. Là, c'est le commerce de services en pourcentage du PIB. français, hein, tout ça. De 2005 à 2013, ça augmente. Bon. C'est parce que c'est 2005 à 2013. Je regarde sur une longue période, de 70 jusqu'à 2012, et je décompose le commerce total, biens et services, entre produits primaires, ça c'est le bleu, les produits manufacturiers c'est le rouge, et les services c'est le vert. Je ne vois pas une augmentation phénoménale de la partie verte. Hein. Ce que je vois, c'est un écrasement des produits primaires, petite remontée là, parce que les prix augmentent, se remettent à augmenter sur la fin, et un gonflement du rouge, mais le commerce service n'a pas tant augmenté que ça, en fait. Alors, c'est vrai que ça n'a pas tant augmenté ça, mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Pourquoi ? Parce que les prix des services ont énormément changé, et ce qui fait le gros des échanges de services, c'est en fait des échanges de voyages et de transport. Et ça, les coûts du transport ayant chuté, eh bien, ça fait chuter la valeur des prix du service, du commerce de services. En revanche, qu'on a comme augmentation très nette, là on est de les années 70 jusqu'en 2005, une augmentation très nette, c'est des exportations de ce qu'on appelle les autres services. Les autres services, c'est ce qu'on entend comme services généralement, les services échangeables, c'est les services bancaires, les services financiers, les services d'assurance, les services de conseil, les services d'avocat, les services de recherche et développement, les services d'engineering, les services d'architecte, de tout ce que vous. Et donc ça, là, les services qui sont intéressants, on va dire, effectivement, ont une croissance très forte. Donc ça, on les échange beaucoup plus. Mais néanmoins, je rajoute quand même un autre point d'interrogation, parce que là-dedans, ce qui augmente beaucoup, c'est aussi les redevances. Les redevances, c'est quoi ? C'est quand vous déposez un brevet, vous vendez votre brevet, puis, enfin, vous prêtez votre brevet, et puis en échange, vous recevez des royalties, hein, des paiements. Quand Euro Disney à Paris est en faillite permanente, pas parce qu'ils font pas d'argent, parce qu'en fait, ils donnent des tonnes et des tonnes de royalties à Disney États-Unis qui aspirent tous les revenus d'Euro Disney. Et donc, c'est ces choses-là. Alors, est-ce que c'est vraiment des échanges de services quand Euro Disney donne à Disney des royalties pour le droit d'utiliser la marque Disney, etc.? Je sais, là je suis un peu perdu, hein, ça devient un peu subtil. Donc tout ça pour dire que bon, quand on commence à creuser dans les détails, c'est compliqué. Mais bon, gardons dans l'idée que quand même, hein, les services sont de plus en plus échangeables et de plus en plus échangeables. Ce qu'on a de nouveau aussi, c'est plus de firmes multinationales. Ça, c'est le PIB mondial de 67 à 2008. Je suis arrêté 2008, ça doit être un peu, mais enfin bon, ça continue à monter. Ça, c'est le commerce mondial, les exportations mondiales. C'est beaucoup moins grand, évidemment. Et puis ça, c'est les FDI, les IDE, les investissements directs étrangers. Et donc, c'est ce qui génère des multinationales. C'est les investissements des firmes multinationales, les rachats d'entreprises à l'étranger, les implantations d'entreprises à l'étranger, etc. C'est tout petit. Mais bon, le même graphique vu sous un autre angle... Quand on ramène, on enlève les échelles et qu'on ramène tout en taux de croissance, donc en fait on met tout ça en base 100, 67, tous les chiffres sont les mêmes, donc là on n'a plus que la croissance. Alors, en termes de croissance, ça c'est très différent, le PIB mondial il croît ici, donc il a été augmenté par 30 à peu près, hein, de 67 à 2007, 2008. Le commerce a beaucoup augmenté, plus que le PIB, c'est la mondialisation, on commerce de plus en plus à une taille d'économie donnée. Et puis, ça, c'est les flux d'investissement mondiaux. Je ne rentre pas dans les détails. Les données d'investissement international, en fait, c'est pire que les services. Hein. On n'en sait vraiment rien et dans des ordres de magnitude énormes. C'est-à-dire que l'imprécision des données est colossale. Mais enfin, quand même. On a une croissance de la présence des multinationales très très forte. Si on regarde un petit peu plus près, hein, la CNUSET fait ça très bien, fait des rapports sur les multinationales dans le monde. Entre 87-2007, ils identifient les filiales des multinationales, et donc là ils s'intéressent à des choses qu'on mesure vraiment, parce que les montants des investissements directs étrangers, on ne sait pas trop, c'est des fusions-acquisitions géantes qui font gonfler les chiffres. Là, on s'intéresse vraiment à ce que font les gens, hein, le nombre de salariés, la valeur ajoutée, etc. Donc ça, on mesure un peu mieux. Donc les investissements directs sortants des pays hein, dans le monde, les investisseurs mondiaux, c'est entrants, pardon, c'est 58 milliards de dollars en 82, 1833 en 2007, 2% de l'investissement mondial en 82, 15% de l'investissement mondial. Laissez tomber les idées sortantes, les stocks, on s'en fiche. Le chiffre d'affaires, on très bien. La valeur ajoutée des filiales, ça représentait 5,6% du PIB mondial. Donc 5,6% du PIB mondial était fait par des multinationales en 82. Aujourd'hui, c'est 11%. 11%, ça commence à être un peu significatif. L'emploi des filiales, c'est aujourd'hui, c'est tout l'emploi allemand. D'accord ? C'est toute l'Allemagne. Et puis les exportations des filiales, ça c'est encore mieux. C'est aujourd'hui, c'est un tiers du commerce mondial qui est réalisé directement par des firmes multinationales. On ne compte pas en plus hein, les sous-traitances. Nike, en fait, n'est pas une multinationale, ou à peine. Hein. Nike ne produit rien, elle ne fait que faire produire ailleurs. Et donc, il y a Nike en tant que donneur d'ordre, génère énormément de commerce international. Là, c'est même pas là-dedans. Hein. Là, on n'a que les exportations directes hein, des filiales multinationales. Et donc ça change un petit peu la donne. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça privatise le commerce, et d'autre part, ça rend ce que les économistes appellent l'économie très granulaire. C'est-à-dire qu'on a quelques gros acteurs qui se mettent à peser beaucoup, et ça a des conséquences très fortes. Je vais en dire un mot. Prochainement. Mais il y a des pays pour lesquels c'est effectivement très important. Hein. Quand Google change un petit peu ses règles comptables, le PIB irlandais, il bouge. D'accord ? Et donc les statisticiens irlandais sont un petit peu embêtés. Là. L'INSEE irlandaise est un petit peu embêtée. Je vais faire des corrections. Mais une entreprise qui fait un petit truc, comme elle est énorme, elle se met à affecter. Laissons tomber ça. Donc on a plus de firmes multinationales, plus de services, plus de firmes multinationales et une plus grande fragmentation des chaînes de valeur. D'accord ? La fragmentation des chaînes de valeur, c'est quoi ? C'est vous avez pour produire un bien, des chaussures, vous devez fabriquer des lacets, vous devez fabriquer, vous devez assembler du cuir, vous devez fabriquer des semelles, vous devez coller tout ça ensemble. Vous devez aussi dessiner les chaussures, vous devez assurer la commercialisation des chaussures, vous devez faire la logistique pour distribuer les chaussures, vous devez faire la gestion financière de l'entreprise, vous devez faire un peu de recherche et développement pour inventer les chaussures qui rebondissent mieux, etc. Vous devez faire du marketing, vous devez faire tout un tas de choses différentes. D'accord ? Et si on s'intéresse juste aux activités manufacturières, c'est-à-dire les lacets, coudre le cuir, coller les semelles, etc., eh bien tout ça, on peut le fabriquer dans tout un tas de pays différents. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est effectivement une très grande fragmentation des chaînes de valeur. Pour arriver au produit final, on peut passer dans des stades de production qui sont localisés dans différents pays. C'est ce qu'on voit dans ce tableau très compliqué. On va regarder que la ligne du bas. Hein. Ici, hein, ça nous dit, en gros, quel est le pourcentage de des exportations du pays là-haut qui contient une valeur ajoutée de produits importés. Donc 15% des exportations américaines en fait contiennent correspondent à de la valeur ajoutée importée. D'accord ? Et donc on voit des chiffres qui sont effectivement assez élevés. 27% pour le Canada. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a beaucoup de valeur ajoutée américaine. Hein. Canada est très dépendant des États-Unis. Pour l'Espagne, c'est 29%. Pour la Pologne, c'est 26%. Pour le Portugal, c'est 35%, etc. Donc, les exportations portugaises, c'est 35% de valeur ajoutée importée. Ce qui, d'emblée, pose la question de la compétitivité. Si vous ouvrez un manuel universitaire de commerce international, n'importe lequel, n'importe lequel parmi les bons, vous ne trouvez pas le mot compétitivité. Hein, c'est un mot, des gens qui sont des qui analysent le commerce international, les chercheurs qui s'intéressent aux questions de commerce international, s'intéressent pas à la compétitivité. C'est un concept qui leur est totalement étranger, ils n'ont jamais compris. J'en fais partie, j'ai jamais compris. Et c'est une des raisons pour laquelle on ne comprend pas bien. D'accord ? C'est quoi la compétitivité ? C'est être plus fort que les autres. Mais en fait, si 35% de mes coûts, de ma valeur ajoutée, donc de mes coûts de production, correspond à ce que j'importe, en fait, si les autres sont, le voisin est très compétitif, il va fournir des biens intermédiaires qui sont très bon marché. Et donc ça, c'est bon pour moi, parce que j'achète des biens intermédiaires moins chers, et donc je suis plus compétitif. Donc si les autres sont plus compétitifs, moi je suis plus compétitif. Si je vois la compétitivité comme une espèce de course, il faut être meilleur que l'autre, ah ben je ne sais plus trop, hein, d'accord ? C'est à partir du moment où tout le monde se tient, il n'y a plus de course, d'accord ? C'est pour ça que s'intéresser à l'idée même de concurrence entre les pays... Et quelque chose qui, que les économistes ont du mal à avaler parce que c'est pas comme ça que ça marche en réalité. Et cette fragmentation, elle a augmenté. Le graphique ici est un petit peu compliqué. C'est un graphique de l'OCDE. Alors, on va regarder juste cette colonne-là. C'est la valeur ajoutée domestique dans les exportations, dans la valeur des exportations. Donc, c'est l'inverse, hein. Tout à l'heure, on avait 15%... Des exportations américaines étaient de la valeur ajoutée importée, et donc ça veut dire que 85% c'est de la valeur ajoutée domestique, d'accord, donc c'est le complémentaire, et donc ici on a ces chiffres là les barres, hein, vous donnent le niveau en 2009, très bien, et les diamants vous donnent le niveau en 95, et donc on a une baisse partout, hein. Les diamants là, ils sont tous quasiment partout au-dessus des barres, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de valeur ajoutée domestique dans les exportations. Donc on fragmente de plus en plus, on a de plus en plus recours à de la sous-traitance étrangère, à des produits, à des biens intermédiaires importés pour réexporter. D'accord ? Très bien. Donc voilà mes quelques outils. Qu'est-ce qui est nouveau dans la mondialisation ? Si vous voulez m'interrompre, hein, et poser des questions, vous pouvez, hein, sentez-vous libre de le faire. C'est toujours mieux de le faire dans le flux que après, on oublie, on n'a pas le temps, etc.